Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de Twitter, et on va reparler de Twitter, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y aura quelques autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 27 avril 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposés, et tout ça. C'est mercredi, plus que quelques jours à tenir avant le week-end. Un grand merci déjà pour commencer à... Oula, ça régale ce matin. Merci 7Tool07 pour ton 19e mois d'abonnement. Merci à Grafabien pour ton 2e mois d'abonnement. Merci Gecko Splinter pour ton 15e mois d'abonnement. Merci beaucoup à tous les contributeurs ce matin. On en reparlera, hein, de comment piquer de l'argent à Jeff Bezos, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le moyen de piquer de l'argent à Elon Musk, mais ça viendra. Nous sommes les Robins du Bois, voilà. Hein, c'est le, il y avait Robin des Bois, nous on est Robin du Bois, un peu plus modeste, on va dire. Merci Camille, bah écoute, moi ça va bien, j'espère que vous aussi ça va, c'est du Polaire 75, salut Michalina, salut Samuel, salut Pierre-Yves, salut Oleg, salut Technisavoir, salut tout le monde, merci beaucoup Cyril pour ton 22e mois d'abonnement, merci, salut Yo Will depuis ton lit, les joies du télétravail, des robins en bois, ouais c'est un peu ça ouais. Des robins en plastique, oui. Merci Snafo pour ton Prime. Premier Prime, merci Bastet pour ton 18e mois d'abonnement. Merci pour les contributeurs, ça régale, ça démarre bien. Bon, le train de la hype est déjà en gare. Magnifique, jamais en retard. C'est pas un train SNCF, hein, le train de la hype, hein. Ça c'est sûr. Sur ce, on va regarder de quoi on va parler ce matin. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous en avez marre d'entendre parler de Twitter, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, parce qu'on va pas arrêter d'en parler. Il y a plein de choses à détricoter encore. Il y a plein de questions à se poser. Il y en a des choses. Merci Eliav également pour ton 14e mois d'abonnement. Merci. On va parler effectivement du rachat de Twitter. On va parler de Mastodon, son alternative libre et sans pub, puisque ça buzz pas mal, l'alternative pour ceux qui voudraient quitter Twitter. Est-ce qu'il faut aller sur Mastodon? On en parlera. On parlera également de l'Union européenne. Je vous avais parlé en début de semaine et ça tombait bien, du nouveau règlement européen. Qui va rentrer normalement en place, le DSA. Et Thierry Breton, justement, avertit, suite au rachat de Twitter par Elon Musk, qu'il devra se plier aux règles. Justement, il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Et on en arrivera logiquement à la question que tout le monde se pose, est-ce que Donald Trump va revenir sur Twitter? Et derrière Donald Trump, est-ce que tous ceux qui se sont fait ban de Twitter auront un blanc-seing pour revenir? Est-ce qu'on le croit Donald Trump quand il dit qu'il va pas revenir sur Twitter? On détricotera un petit peu tout ça. Et on pensera aussi aux salariés de Twitter. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce rachat? Quelles sont les premières réactions? Quelles sont leurs peurs? Marion en a un peu parlé hier. Les articles se multiplient, hein. Là, c'est très dur de faire un mug en ce moment parce que 90% des articles concernent Twitter. Parce qu'il y a plein de volets à aborder. C'est un tremblement de terre avec de nombreuses répliques sismiques. On aura quand même deux autres news que j'ai jugées importantes aujourd'hui. Wikipédia qui reçoit une amende en Russie pour ne pas avoir supprimé des informations inexactes. L'embrouille entre Wikipédia et la Russie, ça continue. Et on parlera également d'Amazon. Amazon, l'objectif de 100% d'énergie renouvelable pour être atteint dès 2025. 5 ans d'avance sur leur prévision d'atteindre 100% d'énergie renouvelable en 2030. Donc ça vaut le coup d'en parler. Voilà pour les sujets du jour. J'espère qu'ils vous vont. J'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le Kawa. Et on va commencer effectivement, hein, vous me connaissez avec ma dyslexie, bonjour, on va parler de Mastodon et pas de mastodonte, hein, Mastodon bien sûr. Alors, vous l'avez peut-être vu buzzer justement, salut Fanflon, vous l'avez peut-être vu buzzer justement sur Twitter, hein, comble. Qu'est-ce que c'est que Mastodon? Certains envisagent effectivement de quitter Twitter suite au rachat par Elon Musk. On reparlera de ça. Comme d'habitude, hein, quand il y a un grand mouvement dans un réseau social, il y a toujours des velléités d'exode. On avait déjà connu ça avec Facebook et c'était Diaspora. Ouais, un truc comme ça. Mastodon, c'est un réseau social open source qui a été créé en 2016. Et il profite justement bien de l'occasion pour faire son comeback avec le rachat de Twitter par Elon Musk, à la manière de Signal et Telegram qui avaient profité des changements de conditions d'utilisation de WhatsApp en 2021. Le timing est plutôt approprié pour Mastodon, puisqu'ils viennent de lancer leur application Android un an après la version iOS. Mastodon, qui comprend environ 4 millions d'utilisateurs au total et 500 000 utilisateurs actifs mensuels, ce qui est quand même très petit pour un réseau social, a fait état d'un afflux de plus de 40 000 utilisateurs dans la seule journée d'hier. Deux fois plus de personnes utiliseraient le réseau quotidiennement, a avancé Eugène Rock, j'espère que je prononce pas mal, le jeune ingénieur allemand qui a fondé le réseau social Mastodon. Celui-ci rapporterait déjà un regain d'intérêt dès le début. Celui-ci rapportait déjà un regain d'intérêt dès le début des manœuvres d'Elon Musk, c'est-à-dire il y a 2 semaines. Comme Twitter, Mastodon permet d'envoyer des messages limités en nombre de caractères, mais alors que sur Twitter, on appelle ça des tweets, sur Mastodon, ne rigolez pas, on appelle ça des pouettes, plutôt que tweets. On peut répondre aux pouettes, les enregistrer, suivre les personnes dont les pouettes nous intéressent. Peut-être pas un super bon choix de nom, mais bon, bref. Mastodon est garanti sans publicité et sans revente de données personnelles. Il est opéré de manière décentralisée, c'est-à-dire que le réseau se définit comme un fait divers, une fédération de plus de 200 serveurs qui est gérée par les internautes eux-mêmes. Mastodon est divisé en plusieurs sous-communautés parallèles appelées instances. Chacune a ses propres règles et ses centres d'intérêt. N'importe qui peut créer son instance. Un utilisateur novice peut toutefois être rebuté par cet aspect puisqu'il ne saura pas forcément quelle communauté rejoindre si aucune de ses connaissances ne se trouve sur Mastodon. Donc, moi, j'ai pas testé un Mastodon, mais de ce que j'en comprends, c'est pas exactement comme Twitter. Vous arrivez sur le réseau et derrière, faut choisir les instances sur lesquelles vous inscrivez qui sont, a priori, mais là, j'ai pas testé, plus ou moins liés aux serveurs. Les serveurs sont décentralisés. Donc, on est typiquement dans un projet très open source, très, voilà, décentralisé, sans business model lié à la publicité, qui se repose uniquement sur les dons. Ceux qui s'attendent à retrouver la même expérience utilisateur que sur Twitter seront forcément déçus. Comme le rappelle l'un des développeurs du site, Mastodon est une organisation à but non lucratif. Le site est opéré par 2 principaux développeurs et il est financé grâce aux dons. D'ailleurs, certains nouveaux utilisateurs font déjà part de leur impatience en attendant trop longtemps à leurs yeux leur confirmation d'inscription. C'est-à-dire les confirmations d'inscription à Mastodon se font de manière manuelle. Par ailleurs, si on quitte Twitter par crainte d'une modération trop souple, il vaut mieux bien choisir son instance Mastodon, car ce sont les administrateurs qui sont responsables de la régulation des contenus. Donc il n'y a pas de régulation centralisée, c'est chaque opérateur d'une instance qui régule lui-même et qui fait la modération dans son instance. Donc c'est, oserais-je le dire, c'est un peu une organisation un peu hippie, quoi. Autorégulation, pas de publicité, uniquement basé sur les dons. Ça a l'air quand même beaucoup plus rugueux, on va dire, qu'un Twitter. Donc, les gens, et j'en ai beaucoup entendu sur Twitter qui disaient hier, bah, si c'est comme ça, je vais sur Mastodon. certains risquent d'être déçus. Et je pense pas tellement forcément par l'aspect rugueux des choses d'un logiciel beaucoup plus open source, beaucoup plus tourné développeur, et ce genre de choses. Mais je pense qu'ils risquent d'être déçus par la portée. Mastodon, même si là, il y a un regain d'intérêt, c'est pas des chiffres énormes. S'il y a une grosse migration sur Mastodon, ça va exploser, les admins n'arriveront pas à suivre. C'est également ce qui risque d'arriver. Ce genre de projet, en fait, parfois on a du mal à réaliser parce que nous, on est utilisateurs et on pense pas à l'énormité des choses que sont Internet aujourd'hui. Et ça, moi, je le constate souvent dans les discussions, ne serait-ce que quand je parle de bande passante. Même un service comme Twitter, il a besoin de bande passante et il faut qu'il paye la bande passante. Là, ok, c'est décentralisé, donc l'hébergement, ils ont probablement diminué les coûts au maximum, mais il y a quand même des coûts. Et c'est un truc lié aux dons, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de business model indépendant de la bonne volonté des gens qui l'utilisent. Je suis pas certain que le flux migratoire, hein, disons les termes, venant de Twitter sera prêt à payer pour Mastodon. Et du coup, est-ce que le Mastodon va pas s'effondrer sur lui-même? Pareil, la modération risque d'être complètement dépassée. En plus, je pense qu'en termes de modération, il risque d'y avoir des mauvaises surprises. Aujourd'hui, de ce que j'ai compris en regardant des screenshots de Mastodon, c'est qu'aujourd'hui, Mastodon est très utilisé par certains groupes LGDP, BT, pardon, on va dire globalement par pas mal de gens de gauche, appelons-les ce qu'on appelle les mouvements woke. Si, on va dire, il y a les groupes plutôt tendance droite, extrême droite, populiste droite qui débarquent sur Mastodon, on risque d'avoir un clash de culture aussi. Et avec une modération qui aura peut-être du mal à suivre. C'est peut-être l'occasion de changer de business model pour eux. Très difficile quand tu t'es lancé avec toutes les notions de logiciel libre, open source, on fait pas ça pour l'argent, on va... Parce que aujourd'hui, les business models, à moins que s'il y a un génie parmi vous, qu'il se révèle ce matin, mais aujourd'hui, les business models pour un réseau social, il y a quoi? Il y a quoi comme business model? À part la pub. Sinon, il y a le don. Il n'y a pas l'abonnement, c'est une forme de don, on va dire, c'est un peu la même chose. Non, mais pole position, je voulais pas mélanger gauche et woke, mais c'est des mots valises, de toute façon, c'est des mots marketing. Ça me saoule aussi, hein, moi, le côté woke, anti-woke, ça devient fourre-tout. En gros, woke, ça veut dire je suis pas d'accord avec pour un certain nombre de personnes. Donc, oubliez ce que je viens de dire. Un système à la Brave, mais tu peux pas imaginer à quel point le système de Brave ne fonctionne pas avec ses micro-dons. Je suis désolé, hein, je secoue le cocotier, je vous fais tomber de votre chaise, mais ces business models sont bien sur le papier, mais personne les utilise. Ça rapporte des clopinettes. Pour vous dire, nous, Brave, on l'avait mis, hein, le système Brave, je suis même pas allé retirer l'argent parce que je crois qu'on n'est même pas arrivé à 1 euro. Voilà. Juste pour vous... Je sais que ces business models alternatifs sont séduisants intellectuellement, qu'on a envie d'y croire, qu'on aimerait que l'humanité soit faite comme ça, mais en vrai, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Gratuit, soutenu par une entreprise, mais à partir du moment où c'est soutenu par une entreprise, l'entreprise, elle a quoi y gagner? Enfin, je comprends pas, soutenu par une entreprise. C'est un don d'une entreprise? Toi, t'as récupéré 50 euros en un an. Non, mais j'exagère. Je pense qu'on a plus d'un euro. Mais c'est des business models très, très compliqués. Moi, je pense de toute façon, et ça sera ma conclusion sur cet article, bien évidemment qu'il va y avoir un mouvement, je quitte Twitter, c'est une manière de se mettre en avant. Je pense que c'est typiquement pas le moment de quitter Twitter. Ça va devenir intéressant. Peut-être que dans 6 mois, je vous dirai le contraire, et que les choses seront devenues tellement toxiques et que ça se passe mal à ce moment-là, oui. Mais partir de Twitter juste après l'annonce, c'est presque dommage. Parce que c'est presque maintenant que les choses vont bouger sur Twitter, éventuellement. Ou peut-être, parce que c'est une de mes hypothèses, il n'y a peut-être rien qui va changer sur Twitter. Mais bon, après, voilà, c'est un mouvement, on va dire, de colère pour certains. Et je n'aime pas Elon Musk, je quitte Twitter. C'est une posture. C'est une posture. Je te garantis, HD Loga, même si je sais que pour beaucoup d'entre vous, Twitter est déjà très toxique, ça peut devenir encore beaucoup plus toxique. Donc, tu fais quoi, toi, Jérôme, si tu as les 44 milliards que Musk a achetés? Je fais réparer le yacht. Maintenance. Qu'est-ce que je ferais avec 44 milliards? Vous en avez de ces questions? Alors, si j'étais Miss France, je dirais, je donne tout à la pauvreté dans le monde. Mais je ne suis pas Miss France. Non, Naotech, autre dimension, hein, là. Là, vous aurez des émissions, je crée de l'emploi. Ouais, ça, c'est ce que je dirais à la télé. Pour faire bien. Alors, ça, je prends un engagement devant vous. Ici, aujourd'hui. Si on touche 44 milliards de dollars pour Naotech, nous n'aurons plus de sponsors. Ça, c'est une évidence. Et je vous garantis même un deuxième truc. Vous ferez des primes et des subs si vous avez envie, mais je vous les demanderai même pas. Ça, je suis prêt à signer le truc. Contre 44 milliards de dollars, je ne prends plus de sponsors. Nous restons gratuits et on demande même plus des subs. Ah, vous pouvez clipper, hein. Pour 44 milliards de dollars, ah ouais, je vous garantis, ouais. Envoie ton rib. On va vous payer pour regarder le mug. Bah, vous pouvez, hein. Un petit sub, un petit prime. Et tu deviens suffisamment, subitement résident suisse ou belge. Ouais, y a des îles pas mal, hein. Malte, c'est sympa aussi, hein. Non, en fait, ça n'a pas l'air sympa du tout, Malte, d'y vivre. Mais faut vraiment avoir de l'argent à planquer pour avoir envie de vivre à Malte. Sérieusement. Ouais, ça serait un truc que je ferais assez bien. Tous mes collègues, je leur achète leur espace sponsor et je fais de la pub pour Naotech et je leur permets de ne plus avoir à travailler avec les sponsors. Boum. Même à 1 milliard, je stoppe les pubs. Ouais, je pense aussi, Captain. Après, bon, vous me faites partir dans les graviers, mais on le voit notamment avec certains gagnants de loto ou ce genre de choses. Déjà, faut pas avoir la tête vrillée, hein, quand on gagne des sommes comme ça. Mais ça montre bien que le travail dans la vie, ce n'est pas que gagner de l'argent. Alors, pour certains, oui, mais dans le travail, il y a aussi la notion d'utilité. Comment rester utile? Comment rester pertinent dans la vie? Donc, je pense que c'est même une composante importante du travail. On travaille, certes, pour gagner sa vie, survivre, se payer la bouffe, le loyer, les traites à la banque si on a acheté, ce genre de choses. Mais on travaille aussi pour se sentir utile. Alors, parfois, on a des boulots où on ne se sent pas utile du tout. On est malheureux. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde a un chouette boulot, quoi. Mais c'est une composante à ne jamais négliger dans le choix de son travail. C'est le sentiment d'utilité qu'on va avoir à travers son travail. Et donc, si je gagne 44 milliards de dollars, comment je fais pour encore avoir l'impression de faire un boulot utile? Probablement que je ferais beaucoup d'associatifs et que il y aurait probablement beaucoup d'argent qui partirait effectivement à des aides, parce que c'est une manière aussi de se sentir utile. Camille, tu rachètes Naotech pour 44 milliards de dollars? Eh ben écoute, on attend ton virement. Envoie-nous un DM, on te file le RIB, il n'y a pas de problème. Ah, et en plus, je reste le boss, Camille. Merci. Bon, en attendant les 44 milliards de dollars, on remercie Caméléon 41 pour son 20e mois d'abonnement. Parce que bon, la réalité, c'est qu'on a vraiment besoin de vos subs et de vos primes hein, pour l'instant. Hein. On les a pas, les 44 milliards. Merci Altaran pour ton 10e mois d'abonnement. Merci Bou0310 pour ton 7e mois d'abonnement. Merci Eliav pour ton 14e mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs. Bastille, on vient d'être racheté. Ah ouais, je rachète Bastille et Flonflon. Ça devient des filiales. Allô Flonflon, comment ça se passe la filiale? Si Jérôme finit le mug à 9h30, je rachète Naotech 50 milliards. Faites gaffe quand vous écrivez des trucs comme ça. Vous savez pas de quoi je suis capable, hein. Naotech Music Flonflon. Mais bon, c'est fort peu probable que je termine à 9h30, donc tu prends pas énormément de risques, c'est clair. Allez, on passe à l'article suivant. Cet article que je viens de vous faire était un article de l'ADN, et nous passons à un article de la Voix du Nord. Et vous voyez, j'ai plein de sources différentes. On va parler du Twitter d'Elon Musk qui devra se plier aux règles, prévient l'Union européenne. Souvenez-vous, si vous avez regardé lundi, je vous ai parlé effectivement du DSA qui vient d'être signé, une signature tripartite par à la fois la Commission, l'Assemblée et le Conseil européen, qui seront des nouvelles règles qui vont s'appliquer notamment aux réseaux sociaux, des nouvelles règles effectivement pour mieux lutter contre les contenus illégaux et dangereux d'Internet. Et ce n'est pas une petite mesurette européenne qui va partir dans le vent de l'oubli ou être balayée par la puissance américaine. C'est un peu comme le RGPD, ça risque d'être inscrit dans le marbre. Je vous conseille d'aller regarder le replay si vous savez pas ce que c'est que le nouveau DSA. Et surtout, les amendes risquent d'être très sévères parce qu'elles pourront monter jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. Et là, je peux vous dire, quand on commence à taper dans le chiffre d'affaires mondial d'une entreprise, même à 6%, ça fait de la méga grosse amende hein, quand même. Hein. Merci Samuel qui vous met le lien effectivement du mug où j'en parle, qui était le mug de lundi. Que ça soit, quel que soit le nouvel actionnariat de Twitter, il devra désormais s'adapter totalement aux règles européennes, a averti Thierry Breton en évoquant notamment le nouveau règlement sur les services numériques, le Digital Service Act, le DSA, conclu samedi par les législateurs de l'Union européenne et qui va contraindre les grandes plateformes à mieux lutter contre les contenus illégaux. Que ça soit sur le harcèlement en ligne, la vente de produits contrefaits, la pédopornographie, les appels à des actes terroristes, Twitter devra s'adapter à notre réglementation européenne qui n'existe pas aux États-Unis. Elon Musk a promis plus de liberté sur Twitter, plus de liberté d'expression, suscitant de vifs débats sur l'avenir du réseau social, certains s'inquiétant d'une plateforme qui pourrait devenir plus toxique. Il est toutefois reconnu qu'il y a des limites imposées par la loi. Et justement, l'article est très court. Il y a plusieurs choses en fait à comprendre. J'ai vu dans les réactions hier du chat que tout n'était pas clair. Marion a abordé le sujet à brûle pour point, hein, Twitter. L'annonce venait d'être faite. Elon Musk est ce qu'on appelle un libertarien qui dit, et il l'a dit dans son rachat de Twitter, qu'il veut plus de liberté d'expression, plus d'inclusivité sur Twitter, que la sensation, et ça il l'a exprimé par moult tweets, qu'il a de Twitter, c'est qu'une partie, des gens n'ont pas le droit de l'expression sur Twitter. Notamment les hommes blancs racistes de plus de 50 ans. Non, je... Boutade. Mais il y a un tout petit peu de ça. Voilà, il n'y a qu'à voir le profil. Alors, c'est pas aussi massif que ça, mais... Le profil des gens qui ont été exclus par Twitter sont souvent, on va dire, à tendance populiste, souvent de droite. Ou des gens... Mais c'est là où... En fait, la liberté d'expression... On va pas faire un cours de philo aujourd'hui. La liberté d'expression, c'est extrêmement complexe. Il y a une chose à bien comprendre pour nous, Français, et nous, Européens. Le débat sur la liberté d'expression... est un sujet hautement politique aux États-Unis et très clivant aux États-Unis. Ça l'est beaucoup moins en Europe. Nous n'avons déjà pas la même vision de ce que c'est que la liberté d'expression aux États-Unis et en Europe. En Europe, traditionnellement, la liberté d'expression a eu des limites très vite, et notamment au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que, oui, on a plein de lois qui protègent la liberté d'expression en Europe, mais on a aussi un certain nombre de lois qui la limitent, disons les termes. Vous n'avez, par exemple, pas le droit de vous afficher avec un drapeau nazi, vous n'avez pas le droit de dire certaines choses, vous n'avez pas le droit de faire de l'incitation à la haine, tout ça est puni pénalement. Hein ? Ça, c'est important à comprendre parce que, quelque part en Europe, le débat est clos. En tout cas, pour l'instant. Sur certains sujets, il y a des choses, vous n'avez pas le droit de le faire, en termes de liberté d'expression. Aux États-Unis, les choses sont très différentes. D'abord parce que, dans leur constitution, ils ont le premier amendement, qui a un côté très sacré pour eux, et c'est normal, c'est leur constitution, qui garantit une liberté d'expression... En tout cas, en théorie, presque illimité. C'est-à-dire, et vous l'avez déjà vu, un groupe néo-nazi aux États-Unis a tout à fait le droit de défiler et de parader avec des symboles nazis et ne sera pas puni pénalement pour ça. Aux États-Unis, vous pouvez très bien faire des appels à la violence et la haine. C'est pas forcément pour ça que vous allez être poursuivi. Constitution poussiéreuse, voire aérée, oxymore, la nôtre, elle a à peu près le même âge, hein, donc ils peuvent dire ça la même chose de nous. Puis je peux te dire que les Américains ont une vision de l'Europe dans le genre poussiéreux, arriéré, voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la posture d'Elon Musk est une posture très américaine dans un débat qui polarise énormément les Américains. Une partie des Américains dit « Ouais, la liberté d'expression, il y a quand même des limites. » Et une autre partie des Américains, je caricature, mais dit « Non, la liberté d'expression doit être totale, sinon ce n'est plus de la liberté d'expression. » Et nous, ça nous paraît presque choquant parce que, entre guillemets, pour nous, Européens, le débat, il est clos. On sait, en tout cas... En Europe, ce qu'on nous apprend, on nous a toujours appris, la liberté d'expression, il faut la défendre, c'est vachement important, mais elle a ses limites. On peut pas tout dire. On peut pas tout dire parce que c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Alors, nous, les débats vont avoir lieu sur les limites qu'on impose. Aux États-Unis, le débat, je caricature, hein, parce que même le plus grand des libertariens sait aussi qu'il y a quand même des limites à la liberté d'expression. Mais bon, quand même, le débat aux États-Unis est plutôt la liberté d'expression doit être totale, sinon ce n'est plus de la liberté d'expression. Et une autre partie des États-Unis dit la liberté d'expression, faut quand même poser des limites, un peu comme en Europe. Alors, attends, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Là, je suis en train de parler de la liberté d'expression, mais tu as raison sur la liberté. Et la liberté d'expression, c'est un peu ça aussi, hein, je suis d'accord. Alors, en fait, ils sont les Américains, et notamment, en fait, c'est un débat qui existe depuis très longtemps. J'explique un peu le contexte parce que ça permet de comprendre la position d'Elon Musk qui, pour nous, peut paraître un peu incongrue ou dangereuse. Le débat sur la première constitution et la liberté d'expression aux États-Unis, c'est vieux comme leur constitution. Ça a toujours été un débat très polarisant pour la vie politique américaine. C'est un débat, par contre, qui a repris beaucoup d'ampleur avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Parce que Trump est effectivement beaucoup sur cette tendance, la liberté d'expression doit être totale. Et justement, ce qui s'est passé aux États-Unis a encore plus engendré de débats, et notamment l'assaut du Capitole et ce genre de choses, c'est-à-dire la liberté d'expression, mais où sont les responsabilités ? Est-ce qu'un quelqu'un qui est président des États-Unis a le droit de tout dire ? Est-ce qu'un président des États-Unis a le droit de faire des appels à la haine ? Et pour eux, c'est des débats super importants. Et les débats ont été, et là je reviens sur le sujet, ont été encore plus exacerbés par le fait qu'un certain nombre de réseaux sociaux, dont Twitter, Facebook, etc., ont décidé d'exclure Trump et toute une clique de gens qui faisaient, on va le dire, des appels à la haine répétés. La liberté d'expression aux États-Unis, c'est comme ce reportage dont je me souviens, dans lequel on voyait un mec du Ku Klux Klan qui disait au calme à une journaliste noire qu'elle était inférieure. Oui, mais ça peut nous paraître choquant, nous, mais en vrai, c'est le fond du débat. La liberté d'expression, c'est aussi de laisser parler les cons et les gens avec qui on n'est pas d'accord. Jusqu'où ? C'est un peu le problème. Est-ce que quelqu'un qui a des opinions racistes doit être libre de les exprimer ou pas ? Là, je vous pose un peu des cours de philo, mais c'est ça. Parce que d'un côté, on va dire, bah non, il prône la haine, donc il n'a pas le droit de s'exprimer. Mais d'un autre côté, pas le droit de s'exprimer, c'est pas très liberté d'expression. Alors, les lois françaises ont tranché là-dessus. Les lois françaises ont tranché. Mais il faut que vous compreniez que ce n'est pas le cas partout dans le monde et les débats sont très présents dans certains pays, dont les États-Unis. D'où la posture d'Elon Musk par rapport à Twitter. Lui, il estime que Twitter est trop à gauche. On va dire que, alors vous savez que la gauche américaine, chez nous, on appellerait ça de la droite, hein, mais en gros, les démocrates américains poussent pour une régulation de la liberté d'expression, fixer des limites et fixer des règles. Et on va dire que la droite américaine, donc plutôt les républicains, vont avoir tendance à dire non, la liberté d'expression doit être totale. Et alors, de là à dire, est-ce que Elon Musk est républicain et de droite, c'est beaucoup plus compliqué que ça, comme tout chez Elon Musk. Les gens qui disent Elon Musk, c'est le pote de Trump. Oui, dans une certaine mesure, c'est vrai que Elon Musk a beaucoup bénéficié de prises de contrat, notamment pour tout ce qui est spatial, sous la présidence de Trump, que Trump a souvent dit qu'il aimait bien Elon Musk, que Elon Musk a parfois défendu Trump, notamment quand Trump s'est fait bannir de la plateforme Twitter, mais c'est mal connaître l'histoire récente. Elon Musk a été également extrêmement actif et très pro-démocrate lors de Barack Obama, lors de la présidence de Barack Obama. Donc de dire que Elon Musk est la caricature du cinquantenaire blanc raciste américain républicain, c'est, à mon avis, c'est faux aussi. Comme à son habitude, Elon Musk sait très bien naviguer entre plusieurs eaux. Hein. Je suis pas tout à fait d'accord, Oxymore, encore une fois avec toi, quand tu dis un milliardaire qui va là où le vent le mène. Pour l'instant, Elon Musk donne plutôt l'impression de mener le vent. Il va pas là où on l'attend. Il est plein de surprises. Donc non, je dirais pas que c'est une girouette. C'est plutôt un trublion, pour reprendre des vieux mots français. C'est marrant comme j'ai plein de vieux mots français qui me viennent en tête quand je pense à Elon Musk. Vous verrez. Trublion. Voilà. C'est un Texan. Alors là, on pourrait aller plus loin. C'est pas qu'un Texan. C'est quelqu'un qui a passé toute son enfance en Afrique du Sud lors de l'apartheid. Ça, il y en a qui le rappellent aussi violemment. Hein. Un blanc en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Elon Musk serait une girouette qui va dans le sens pour avoir ses subventions. Non, justement, Flonflon, je partage pas cette vision. C'est plutôt quelqu'un qui va tordre la girouette pour aller dans le sens et avoir les subventions qu'il lui faut pour faire ce qu'il veut. Mais je le trouve, il est pas, je le caractériserai pas de girouette. Il va chercher plutôt à influer, à avoir de l'influence. C'est du lobbying à grande échelle. Et quand on y réfléchit, l'achat de Twitter est tout à fait cohérent pour lui. Ça lui donne un levier de pouvoir politique et de lobbying énorme. Énorme. Il influe énormément, moi, je trouve. Hein. Il se laisse pas influer, en fait. Les Américains confondent l'esprit, les libertés d'expression, confondent liberté d'expression et obligation aux autres de les écouter. Après, le problème, là, c'est ma petite analyse personnelle et revenons quand même un petit peu sur l'article. L'Union européenne en a des règles. Et ce qu'il y a de bien, et moi, je suis 100% pour ce DSA, c'est que c'est pas parce que Twitter aura un vent libertarien sous Elon Musk. Et c'est même pas si Donald Trump et d'autres mecs reviennent sur la plateforme et que ça devient hyper toxique, l'Europe n'a pas forcément à subir ça. Alors, est-ce que ça va interdire Twitter en Europe? Non, mais Twitter devra se conformer aux règles européennes s'il veut faire du business en Europe. Et il est temps, c'est pas parce qu'on n'a pas fondé un réseau social en Europe qu'on doit le subir aussi. Et je pense que c'est important que l'Europe, et c'est ça qu'il y a de bien en ce moment, c'est qu'on a l'impression qu'enfin, l'Europe prend des décisions collectives. Je parle de l'Europe politique, hein, pas de l'Europe géographique. Donc ça, c'est bien. Il y a une chose dans la culture européenne par rapport à la liberté d'expression. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on m'a inculqué la culture européenne. Parce que moi, je viens des États-Unis, ne l'oublions pas. Donc j'ai appris la culture européenne et c'est une chose que je respecte et qui est une autre manière de voir les choses sur la liberté d'expression. L'Europe défend la liberté d'expression, ça j'en suis persuadé. Mais l'Europe prône aussi que on dit pas tout et n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose pour moi de fondamental qu'on oublie dans ce débat sur la liberté d'expression. Liberté d'expression, certes, mais liberté de forme, non. Je vais vous donner un exemple tout simple. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, politiquement par exemple, vous pouvez lui dire, avec diplomatie, avec tact, avec intelligence, vous pouvez avoir un débat avec lui, en lui disant... Je ne suis pas d'accord, mais j'écoute ton opinion et on débat. Et puis après, il y a l'autre moyen, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, c'est « ta gueule, espèce de connard, dégage de là, tes idées, c'est pourri, de l'insulte, en fait. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu sur Twitter et ce qui risque de venir. C'est pour beaucoup de gens, liberté d'expression, c'est liberté de harceler et liberté d'insulter. Pour moi, il n'y a pas de liberté d'insulter. Et c'est nous, ce que notre modération essaye de faire sur le chat. Bon, ils ont un certain nombre de règles, mais l'esprit de la modération, en tout cas, j'espère que l'esprit de la modération, c'est que il y a une règle déjà, c'est que on laisse les gens s'exprimer, mais dès que ça devient personnel et que les gens commencent à mettre des petites phrases personnelles, ah mais t'as rien compris machin, on sait que ça va vite déraper en insultes personnelles, et là on modère. Donc, moi, ma position sur la liberté d'expression, c'est que la liberté d'expression doit être assez absolue. On doit laisser s'exprimer surtout les gens qui sont en désaccord avec nous, et j'irai même plus loin, les cons ont droit à l'expression. Par contre, dans le choix de la forme, ils n'ont pas la liberté. Les formes doivent être choisies. Et confondre liberté d'expression et liberté d'insulter, de harceler, est le grand danger de Twitter, je pense. Un jour, un vieux commerçant m'a dit, j'adorais il y a 10 ans, on pouvait s'engueuler sereinement avec des gens et boire un coup d'après. Oui, ça c'est un peu... Désolé Anaïs, mais... C'est un peu, c'était mieux avant. En fait, tu peux toujours t'engueuler avec des gens et boire des coups d'après, ça dépend avec qui, en fait. Alors, puis gaffe, question ouverte, mais on a une réponse. En France, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Ce n'est pas une opinion, c'est un délit. En gros, notre règlement a tranché. C'est pas le cas dans tous les autres pays, mais en France, c'est très clair. Le racisme, l'incitation à la haine, n'est pas légal. Donc ce n'est pas une opinion, le racisme. La question a été tranchée depuis très longtemps en France, hein. Donc, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Hein. Mais je sous-estime pas l'intelligence de Musk. Au contraire, s'il y a bien un truc que je sous-estime pas chez Musk, c'est l'intelligence. Après, le tact, par exemple, ou l'humilité, c'est des choses, j'ai plus de doutes chez Elon Musk. Et ce qui fait de quelqu'un de bien n'est pas que l'intelligence. C'est la manière de l'utiliser. Mais là où je suis d'accord avec toi, je pense qu'on comprend mal aussi libertarien. Nous, on va tout de suite dans les excès. Oui, la liberté d'expression, du coup, tout le monde va pouvoir tout dire, les gens vont s'insulter, ça va être une guerre atomique sur Twitter, ça va être l'horreur. Non, même ceux qui prônent à fond la liberté d'expression savent très bien, parce que on va aller dans des cas plus cringe et qu'on sort toujours... la liberté d'expression, c'est quoi? C'est laisser un terroriste ou un pédophile s'exprimer sur Twitter? Non, non. Même pour quelqu'un qui prône à 100% la liberté d'expression, il y a toujours des limites. Il sait bien qu'il y a des limites. Et je vais même dire une dernière chose, parce que c'est... Rappelez-vous l'article que j'ai fait sur Barack Obama lundi. Je trouve que Barack Obama a dit quelque chose d'assez pertinent dans le débat actuel. On a beaucoup tendance à dire que les réseaux sociaux sont toxiques et c'est une horreur parce que les gens disent ce qu'ils veulent et il n'y a pas de frein, il n'y a pas de retenue. Ce que dit Barack Obama, il dit que le problème n'est pas là. Finalement, dans le fond, pourquoi pas laisser les gens dire ce qu'ils veulent? C'est pas un problème en soi. Le vrai problème des réseaux sociaux, c'est que leur business model étant lié à capter un maximum d'attention, de votre attention, les algorithmes des réseaux sociaux vont farfouiller dans ce que les gens disent, et donc partons du principe que les gens disent ce qu'ils veulent et n'importe quoi, et vont faire remonter les contenus qui déclenchent le plus de vues. Et je vous le donne dans le mille. Quels sont les tweets qui font le plus d'interactions et le plus de vues? Les tweets polémiques, les tweets toxiques, les tweets d'attaque. Parce que la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Les gens, on est des fouilles merdes. On adore quand ça clash. On se met toujours en rond quand il y en a deux qui se battent dans la cour de récré. C'est la nature humaine. La nature humaine adore les cancans, les scandales, les polémiques, les conspirations. L'impression, je sais quelque chose que tu ne sais pas. Je suis plus intelligent que toi. Tu es un mouton. C'est notre nature humaine. Désolé hein, de critiquer votre nature humaine, mais je vous jure que c'est votre nature humaine. Après, on peut la combattre hein, dans sa vie, hein, sa nature. Hein. Faut pas toujours se laisser aller à sa nature humaine. Hein. Sinon, vous branlez toute la journée et vous tapez dès qu'il y en a un qui vous sourit. Hein. Ça aussi, c'est notre nature humaine. Hein. Donc, le vrai problème, c'est plus que... Comprenez bien, parce que c'est peut-être le truc fondamental dans toute cette histoire de Twitter, mais sur l'ensemble des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un business model basé sur la publicité. Tout business model basé sur la publicité requiert qu'on augmente régulièrement l'attention des gens à ce réseau social. Donc... Les réseaux sociaux vont tout faire pour mettre en avant du contenu qui attire les gens. Quel est le contenu qui attire les gens? Le contenu toxique. Le contenu sensationnaliste, les conspirations et tout ça, ça attire les gens. Tant qu'on ne régule pas ça, ça sera toujours comme ça. À chaque guillemet, un chaton meurt quelque part, oui. On dirait juste deux chiens, chacun derrière son grillage, à aboyer l'autre, c'est qui lâchera le premier, ouais. Donc, c'est très intéressant ce que dit Barack Obama. Le problème, c'est les algorithmes tels qu'ils sont conçus. Et d'ailleurs, je reviens à Elon Musk, une de ses intentions pour Twitter, qui est peut-être louable, c'est que ces algorithmes de recommandation de contenu seront open source. Et une de ses intentions, c'est de sortir Twitter du modèle publicitaire pour en faire une société complètement privée qui sera beaucoup moins soumise à ses actionnaires et au besoin de gagner de plus en plus d'argent. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que il n'y a pas des intentions cachées? Là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à détricoter. Mais vous voyez, il n'y a pas que du mauvais dans les intentions d'Elon Musk par rapport justement à la liberté d'expression. Parce que c'est là où il pourrait être très filou, Elon Musk, et pour moi qu'il aurait raison. Il pourrait très bien dire, Twitter, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Par contre, Twitter ne mettra pas en avant ce que vous voulez. C'est toute la nuance et c'est toute la différence. Et ça pourrait être intéressant comme approche, voire historique. Donc, intéressant. Bon, allez, je continue. Désolé, j'ai dérapé complètement, mais j'ai tellement de choses à dire sur cette histoire Twitter, parce que c'est pas que Twitter et Elon Musk. C'est l'avenir d'Internet qui se joue en ce moment. Je dramatise pas pour faire un effet de manche journalistique. Hein. Mais si on parle autant de Twitter, c'est qu'on est en train de... On est à un point pivot de notre avenir sur cette histoire. Et justement, on glisse vers un article de Numérama et on va parler de Donald Trump. On est dedans, on y reste. Personne ne croit Donald Trump quand il dit qu'il ne va pas revenir sur le Twitter d'Elon Musk. Je vous la fais rapide. Quand on a demandé à Trump... Alors, beaucoup de gens supputent... Attention, il y a des choses importantes à savoir. Pour l'instant, Elon Musk n'a absolument pas dit qu'il souhaitait le retour de Donald Trump. Il y a des gens qui disent n'importe quoi sur Twitter et qui disent « Oui, Elon Musk aura envoyé une missive à Twitter avant le rachat en disant « Une de mes conditions, c'est le retour de Donald Trump ». Il n'a pas, en tout cas dans les faits, il n'a pas pour l'instant dit qu'il souhaitait le retour de Donald Trump. Ou en tout cas, d'enlever le ban de Donald Trump. Donc ça, c'est de la supputation. Première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, Donald Trump a dit qu'il n'avait pas envie de revenir. Vous le savez, Donald Trump a lancé son propre réseau social, Truth. Truth, voilà. Qui floppe, hein. Soyons clairs, ça floppe. Mais justement, une des seules chances que Truth avait de réussir, c'était de regrouper tous les gens qui se sont fait exclure ou qui se sentent exclus de Twitter. Est-ce que Donald Trump ne va pas revenir sur Twitter? Personne ne peut le croire. Quand il dit qu'il va pas revenir sur Twitter, et moi le premier. Donald Trump n'a toujours pas accepté la réalité qu'il a perdu les élections américaines. Pour lui, dans sa tête, il est toujours en combat, et il veut revenir aux prochaines élections américaines, qui seront en 2024, donc c'est dans pas longtemps. Et s'il a l'autorisation, entre guillemets, de revenir sur Twitter, il reviendra sur Twitter, c'est clair. J'ai dit un réseau social, mais désolé, MR Cappuccino, ça m'arrive de faire des fautes de français. Hein. C'est... Là encore une fois, je sais que Twitter n'est pas un énorme réseau social. Hein. Twitter est même moins important en valorisation boursière qu'un Snapchat, hein, pour que vous réalisiez à quel point il a acheté. Quelque part, Elon Musk a acheté le pire des réseaux sociaux. Hein. Ça, il faut pas l'oublier dans l'équation et dans l'analyse. Il a acheté une boîte qui gagne très peu d'argent et qui pourra jamais en gagner beaucoup. Le business model, entre guillemets, est ailleurs pour Elon Musk en achetant Twitter. Ça, on y reviendra. Mais il va pas transformer Twitter en usine à cash, hein, ça c'est clair. Mais par contre, Twitter a une importance énorme quand même. C'est un réseau social à part. C'est le réseau social où les présidents prennent la parole. C'est le réseau social où les plus grands journalistes prennent la parole. C'est le réseau social où les opprimés peuvent prendre la parole. En ça, c'est un réseau social, et ce qu'a dit Jack Dorsey hier sur Twitter est hyper important. Quand il dit Twitter est aujourd'hui ce que nous avons le plus proche d'une conscience collective et mondiale. Je suis très d'accord avec lui. Alors, on n'y est pas encore à quelque chose de parfait, hein. Mais, je sais, hein, que pour beaucoup d'entre vous, Twitter c'est de la merde, c'est toxique. Mais je pense quand même que Twitter, est aujourd'hui ce qui se rapproche le plus d'une conscience mondiale et d'une plateforme de communication mondiale. Alors, le fait que ça véhicule de la merde en dit peut-être beaucoup sur notre civilisation, mais quand même. Oui, Twitter est très célèbre en étant une plateforme qui, d'un point de vue financier, n'est pas très rentable. Enfin, à peine rentable, qui pourra jamais dégager beaucoup d'argent parce que c'est pas hyper adapté à la pub. Il y a trop de polémiques sur Twitter pour que les annonceurs aient envie d'être sur Twitter. Mais tout le monde connaît Twitter et tout le monde utilise Twitter. Une conscience ultra-occidentale et au fort pouvoir d'achat. Soin, je serais plus nuancé que toi. Twitter n'est pas qu'une plateforme de riches, justement. Twitter, par sa simplicité et le fait que ça tournait même sur des smartphones très légers, je dis pas que tout le monde s'exprime sur Twitter et que... Mais quand même, Twitter est un peu comme le SMS. Hein. Et à l'origine, c'était ça. Un moyen d'expression extrêmement simple, accessible à énormément de monde, hein, quand même. Est-ce que Twitter est une application pour les jeunes? Alors là, j'ai eu un débat très intéressant avec un ami là-dessus. Il me dit, les jeunes ne sont pas sur Twitter. J'ai dit, ouais, mais regarde, par exemple, le mot ratio. Si vous savez ce que c'est que ratio et tout ça. En fait, moi, la vision que j'ai de Twitter, c'est que Twitter est un espèce de filtre de la culture Internet. La culture Internet des jeunes, on va dire, se forge beaucoup sur Reddit et 4chan, qui finalement ne regroupe pas énormément d'utilisateurs, mais c'est là où les meilleurs mèmes naissent, où les tendances, on va dire, de la culture Internet naissent. Et ensuite, ils sont passés par le filtre de Twitter, et c'est sur Twitter qu'ils deviennent mainstream ou pas. Donc, les jeunes vont dire qu'ils n'utilisent pas Twitter, et c'est certainement le cas au quotidien, ils n'utilisent pas Twitter, mais de grosses parties de la culture Internet des jeunes aujourd'hui vient quand même de Twitter. Donc oui, je pense que c'est un réseau important même pour les jeunes. Et tu vois, voilà, ratio, ça vient de Twitter quand même. Après, il y a une chose qu'il faut comprendre, Twitter a une importance même si vous l'utilisez pas. Ça a une importance pour vous même si vous l'utilisez pas. Je disais ça dans le chat hier. Vous n'utilisez pas Twitter, je sais que beaucoup d'entre vous n'utilisent pas du tout Twitter, ne l'ouvrent jamais. Mais pourtant, quand vous lisez des articles sur Internet, ou que vous venez, par exemple, dans cette émission, nous, il y a beaucoup de choses qui viennent de Twitter dont on parle. En fait, donc Twitter a une importance pour vous, en fait. Beaucoup, beaucoup de journalistes, presque tous les journalistes utilisent énormément Twitter. Alors, c'est pas leur seule source d'information, mais quand même. Oui, mais tu vois, les jeunes sont sur TikTok. Par exemple, le mot ratio, on l'utilise sur TikTok, alors que ratio, c'est vraiment un truc de Twitter à l'origine. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir de Twitter, même si vous ne l'utilisez pas du tout. Et les politiques, bah voilà. Je vous dis, c'est quand même ça, et ça, c'est quelque chose, il faut pas l'oublier dans le côté merveilleux de Twitter, parce que oui, Twitter a un côté merveilleux. C'est la première fois dans l'humanité qu'on a un média qui est utilisé par la plupart, on va dire 95% des puissants du monde s'expriment sur une plateforme et peuvent même échanger sur une plateforme. En termes de communication et d'instinct grégaire, de regroupement de l'humanité, c'est un pas de géant. Alors là, il y en a quelques-uns qui disent « Oui, mais le mondialisme... » Non, non, moi, je vous parle de du fait que l'humanité, qu'on le veuille ou non, va toujours essayer de parler à un groupe d'humanité de plus en plus grand. Le monde devient de plus en plus petit. Et Twitter fait partie de ce mouvement. Marine Le Pen imprime des tweets, c'est dire à quel point c'est impactant. Ben, on pourrait revenir sur cette histoire, mais oui, t'as tout à fait raison. Elle n'a pas imprimé un article de journal en disant « Regardez, j'ai dit ça tel jour, dans tel journal, à telle interview. » Elle a imprimé son tweet. Mais, encore une fois, c'est très important, j'en vois quelqu'un qui dit « J'ai jamais utilisé Twitter, je sais même pas à quoi ça sert et tout. » C'est pas grave, vous êtes absolument pas obligé d'utiliser Twitter. Je vous dis juste que Twitter est dans votre vie, même si vous n'utilisez pas Twitter. Oui, oui, tout à fait. Sur Note, en 2017, il avait déjà demandé combien coûtait Twitter. Bref, le retour de Donald Trump, en fait, il est inévitable. C'est ça que cet article cherche à dire. Donald Trump peut... Il essaye de faire la pub de Truth, mais ça sera peine perdue. S'il est réautorisé à parler... Mais c'est pas gagné hein, qu'il soit réautorisé. Hein. Beaucoup y croient parce que c'est un vœu pieux des supporters de Trump, mais c'est pas encore dit. Et Elon Musk... Et attention, c'est pas forcément Elon Musk qui va tout décider chez Twitter. Hein. Il y a déjà des rumeurs ce matin que ça serait Jack Dorsey qui va redevenir CEO de Twitter. Et Jack Dorsey et Trump, et Elon Musk, même s'ils sont très potes tous les deux, ils sont quand même assez différents. Hein. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs que Jack Dorsey redevienne CEO. Mais ça sera un autre article. Oh, il est déjà 9h, putain, on va jamais s'en sortir. Bon, je vous parlerai des salariés de Twitter probablement demain. De toute façon, on a des articles à tire-larigot sur Twitter. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est hyper intéressant, même les discussions que j'ai avec vous là-dessus. Ouais, Griffon, je suis pas d'accord avec toi. Twitter, c'est le néant de la réflexion avec ses 200 caractères, aucun article de fond, tout est dans l'instantané, dans le clash. D'abord... Ce que tu es en train de dire, c'est que le titre d'un article n'a aucune importance par rapport à l'article. Et rien que ça, je suis pas d'accord avec toi. Donc, en gros, c'est le nombre de caractères qui détermine de l'importance. Non, parce que le titre, par exemple, d'un article de journal, c'est l'angle d'attaque d'un article. Et Twitter, ce ne sont que des titres d'articles. Et souvent, ils sont liés à des articles que tu peux lire derrière. Donc, de dire que les titres d'articles n'ont aucune importance et c'est du vent, bah là, déjà, je suis pas d'accord avec toi. Voilà, c'est en train de déraper sur le débat Marine Le Pen Macron. Alors là, pour le coup, les gars, vous partez dans de sérieux graviers. Hein. Et merci de pas avoir des discussions. Alors ça, c'est une règle de notre modération. Je la précise s'il y a des nouveaux ce matin. Vous risquez de vous faire supprimer des messages dans le chat si vous commencez à avoir des discussions trop parallèles. Alors, je sais, hein, moi je suis le premier à sortir des articles, mais il faut me suivre. Vous n'avez pas le droit de sortir de ce que je dis. Pourquoi on a un règlement aussi dur ? Liberté d'expression, Jérôme, on a le droit de dire ce que... Il faut comprendre une chose, c'est que moi en tant que présentateur, je vous lis en direct. Et s'il y a des discussions parallèles... Et j'ai pas le temps de lire dans ma tête ce que vous avez écrit avant de le lire à voix haute. Donc, si vous avez écrit des discussions parallèles ou des trucs qui ont rien à voir avec la choucroute, moi, je vais les lire à voix haute et ça marche plus. Donc, s'il y a cette règle de modération où des modérateurs vont supprimer vos messages, c'est pas forcément parce que vous avez dit un truc qui est pas bien ou quoi que ce soit. C'est aussi parce que la modération est entraînée à nettoyer le chat pour que le chat reste. Essaye de suivre le sujet du présentateur. Donc, vous pouvez le dire, la liberté d'expression n'est pas totale sur le chat de l'émission, c'est clair. T'es anti-liberté d'expression. Oui, parce que techniquement, si on laisse tout le monde tout dire ce qu'ils veulent dans le chat, ça va perturber l'émission et le présentateur ne peut plus interagir avec le chat et ça aboutira à quoi au final? Ça aboutira que le présentateur ne lira plus le chat. Et donc, on perdra ce qui fait la substantifique moelle de cette émission. Donc, tout le monde y perdra. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Un live n'est pas une démocratie. Non, il n'y a pas la liberté d'expression sur le chat. Vous pouvez vous dire ça, il n'y a aucun problème. J'assume complètement. De toute façon, c'est absolument pas démocratique comme exercice. C'est moi qui parle et je lis vos messages. Donc, il n'y a pas d'échange réciproque. Hein. J'ai trop de respect pour la démocratie pour penser que c'en est une. Hein. C'est mon émission. En tout cas, c'est l'émission du présentateur. On fait ce qu'on veut. Hein. C'est tout. Jérôme démission. Hé, hey, vous savez quoi? Vous n'avez même pas besoin de demander ma démission. Si ça vous plaît pas, il y a plein d'autres streamers. La porte est à droite ou à gauche, comme vous voulez. Il y a des sorties de secours des deux côtés de l'appareil. Hein. Voilà. Exactement. Faites ce que vous voulez. Allez, on passe aux deux derniers articles que je vais faire rapidement parce que c'est important. Il n'y a pas que Twitter dans les news quand même. Un article de Numérama encore. Wikipédia reçoit une amende en Russie pour ne pas avoir supprimé des informations inexactes. Hein, parlons-en hein, de la liberté d'expression en Russie. Ouais. Les agences de presse rapportent ce mardi 26 avril la décision du tribunal moscovite condamnant la fondation Wikipédia à une amende de quelques millions de roubles, soit dizaines de milliers d'euros, pour ne pas avoir supprimé des passages de l'encyclopédie Wikipédia jugés inexacts selon le récit officiel russe de la guerre en Ukraine. Hein, allez demander à Poutine ce qu'il pense de la liberté d'expression. Selon Pierre-Yves Baudouin, administrateur de la déclinaison française de Wikipédia, ce sont 7 articles qui étaient ciblés. 2 ayant trait à des explosifs et 5 sur l'invasion de la Russie en Ukraine, qui est décrite comme une opération militaire spéciale à l'intérieur des frontières russes. C'est comme ça que le gouvernement russe parle de l'invasion de l'Ukraine. C'est que d'abord, ça se passe à l'intérieur du territoire russe. Donc pour eux, c'est déjà un fait que l'Ukraine soit dans le territoire russe. Et que ce n'est pas la guerre, c'est une opération militaire spéciale. Hein. Facebook a écopé d'une amende de 4 millions de roubles et TikTok de 2 millions. Les sujets sont tout autres. Les deux autres réseaux, puisqu'il y a d'autres réseaux sociaux qui ont été accusés par ce même tribunal. Donc Facebook a pris une amende de 4 millions de roubles et TikTok de 2 millions de roubles. Pourquoi ils ont pris des amendes? Les sujets sont tout autres. Les deux réseaux sociaux, donc TikTok et Facebook, sont accusés de propagande LGBT. Un paradoxe à l'heure où se déroule ailleurs dans le monde la journée de la visibilité lesbienne qui éclaire sur les difficultés auxquelles elles peuvent faire face sur le web. Donc, en gros, la Russie, au moins, elle éclaire sur le sujet. Hein, vous faites de la propagande LGBT si vous parlez de sujets LGBT. Donc, Facebook, TikTok, si vous ne savez pas faire la modération chez vous sur ces sujets hautement toxiques que sont la culture LGBT, eh bien, le pouvoir moscovite s'en chargera pour vous. Le jugement rendu en Russie est susceptible d'appel, mais rien n'est dit que le verdict sera plus favorable pour la fondation Wikipédia. L'amende pourrait être alourdie, alors et d'autres sanctions pécuniaires sont envisageables contre l'encyclopédie tant que les contenus litigieux ne sont pas retirés. Ce qui est improbable. Le risque d'un blocage sur le site n'est pas à écarter. L'éventualité d'un blocage de Wikipédia par les opérateurs est une menace des internautes. Ça on en avait déjà parlé, on avait fait l'article. L'éventualité d'un blocage de Wikipédia en Russie est une menace que les internautes russes jugent suffisamment crédible pour prendre dès maintenant certaines mesures préventives. Et ça, on l'avait traité dans un article. Le nombre des téléchargements de l'encyclopédie pour pouvoir avoir Wikipédia hors ligne a littéralement explosé. Hein, je crois que c'était 700% de plus de téléchargement, parce que oui, vous pouvez télécharger Wikipédia et le consulter en local. Il sera plus mis à jour, mais un jour T, vous pouvez télécharger l'ensemble de Wikipédia. Et ben ça a explosé.
Pas de débat, on a autorisé à partir dans les graviers quand le chef part dans les graviers. Tout à fait. News.
Tu vois, là, c'est l'exemple parfait. Effectivement, je le lis parce que j'ai commencé à le lire. Matt Gammon, news urgente, la Russie vient de couper de gaz à la Pologne et à la Bulgarie. C'est pas du tout dans mon sujet, mais tu l'as écrit dans le chat. Mais t'as raison, hein, j'ai lu la news moi avant de commencer. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Donc en fait, tu me mets dans l'embarras en écrivant ça dans le chat. C'est juste pour vous illustrer que si vous écrivez des choses dans le chat qui n'ont rien à voir avec ce que je dis, ça peut vraiment perturber le fonctionnement de l'émission. C'est juste pour expliquer un petit peu le problème qu'on a, en fait. Et c'est pas contre votre liberté d'expression. J'interdis pas à Matt Gammon de donner une news urgente de la Russie. C'est juste que s'il fait ça et que tout le monde parle d'autre chose que ce que je parle, je ne peux plus interagir avec la chatroom. Non, mais c'est juste pour vous expliquer, en fait, parce que vous vous rendez pas forcément compte des problèmes que nous, ça peut nous poser. T'as peur pour ton chauffage, voilà. Hein? Bon, dernier article, justement, si vous avez peur pour votre chauffage. Amazon atteint l'objectif de 100% d'énergie renouvelable pour... l'objectif de 100% d'énergie renouvelable pour le fonctionnement total d'Amazon pourra être atteint dès 2025, et c'est 5 ans d'avance sur leur prévision qui était d'atteindre cet objectif en 2030. C'est un article de révolutionénergétique.com. Amazon avait pour objectif d'atteindre 100% d'énergie renouvelable pour alimenter ses activités d'ici 2030. Finalement, cela devrait être fait avec 5 ans d'avance, dès 2025. Pour cela, le géant américain de l'e-commerce lance 37 nouveaux projets éoliens et photovoltaïques dans le monde, avec notamment une installation prévue en France. Dans l'Hexagone... Alors attendez, j'avais juste besoin d'un truc... Voilà. J'avais besoin d'une définition. Dans l'Hexagone, la firme américaine annonce la création d'un parc solaire à Saint-Frichoux, dans l'Aude. On salue Saint-Frichoux, qui devrait rentrer en service en 2025 pour une capacité de production de 23,4 mégawatts crêtes. Voilà. Si vous savez pas ce que c'est que les mégawatts crêtes, c'est en gros la manière de compter l'énergie photovoltaïque dans un fonctionnement optimal du photovoltaïque. Et ça s'écrit MW avec un petit C. Donc c'est le mégawatt crête. Ceux qui ont des panneaux solaires connaissent peut-être déjà. Ce sera le deuxième projet d'Amazon pour le territoire français, puisque le premier parc situé en Gironde aura une capacité de 15 mégawatts crête et devra déjà être prêt et devrait être mis en service cette année. 36 autres projets annoncés par l'entreprise concernent des parcs solaires et éoliens installés aux États-Unis, en Espagne, ainsi qu'aux Émirats arabes, au Canada, en Inde et au Japon, et bien évidemment des éoliennes en face du Touquet. Je fais de l'humour. Kappa. Pour ceux qui ont la ref. Lorsque le total des 310 installations initiées par l'entreprise fonctionnera à plein régime, elles permettront d'alimenter les bureaux, mais également des data centers et tous les centres de distribution d'Amazon grâce à une production de 42 000 gigawatts. Mais Marty! Finalement, c'était beaucoup plus simple. Il suffisait de mettre un câble sur l'aiguille de l'horloge de la mairie et tu les avais, les 45 000 gigawatts. cela équivaut à la consommation annuelle de 11 millions de foyers européens. Ça bouffe hein, quand même Amazon. Le géant américain entend ainsi atteindre 100% d'énergie renouvelable pour ses activités d'ici 2025, avec 5 ans d'avance par rapport à son objectif initial de fixé à 2030. Avec ses 37 nouveaux projets, le géant américain renforce sa place du plus grand acheteur privé d'énergie renouvelable dans le monde. En outre, la firme s'est engagée à atteindre le seuil de zéro carbone d'ici 2040, alors que l'accord de Paris a fixé cet objectif pour 2050 seulement. Est-ce que vous allez applaudir Amazon? C'est la vraie question. On va dire que Amazon, il n'y a vraiment pas que du bon, mais là, pour le coup, c'est pas mal d'atteindre ses objectifs 5 ans avant. Euh, Nom de Zeus, Marty, 2,21 gigawatts.
C'est bien, faut pas s'arrêter. Non, mais en vrai, vous avez tout à fait le droit, et moi le premier, à critiquer plein de choses chez Amazon. Mais là, pour le coup, c'est pas mal ce qu'ils font, a priori. Après, il faut vérifier que tout ça est vrai, bien évidemment. Nous avons le droit à un scepticisme de base. Mais... Alors, la puissance crête, nous précise Naru Weimer, c'est la capacité maximale de production instantanée dans des conditions optimales d'ensoleillement. Voilà. Les cargos poubelles de conteneurs fonctionnent aussi au solaire. Je pense que ça viendra, Claricule. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je dis toujours. Quand l'écologie rejoint les intérêts économiques, ce sera de l'écologie qui marche. Et je pense que Amazon a tout intérêt économiquement à avoir un fonctionnement zéro carbone parce que ça leur va leur rapporter encore plus d'argent. Et donc, tant mieux. Quand l'écologie permet de faire de l'économie, bah c'est là que ça marche le mieux. Ils achètent de l'énergie renouvelable, ils n'en produira pas, c'est pas la même chose. Pour l'instant, oui. Mais a priori, ils ont l'air de financer quand même ces installations-là. Hein. Après, on aimerait qu'Amazon aille plus loin sur l'écologie. Les produits de merde qu'ils nous vendent, qu'ils nous pètent dans les doigts au bout de 6 mois... et qui pollue, pourrait être pas mal de commencer à regarder là-dedans aussi. Hein. Écologie plus intérêt économique, c'est pas ça le greenwashing. Non, c'est quand... pour moi, le greenwashing, c'est quand tu mets en avant des vertus écologiques, mais que c'est pipeau par rapport au reste de ta pollution, en fait. Alors oui, bien évidemment, tout le monde a des efforts à faire pour l'écologie. Nous aussi, hein, de pas acheter des merdes. Nous aussi, en tant que chaîne YouTube, à ne pas promouvoir l'achat de merde aussi. Et tout le monde a sa part de responsabilité. Et puis la répercussion positive sur une image de marque qui souffre de pas mal de soucis, ce n'est pas négligeable, tout à fait. Mais ça fait partie de l'économie, hein, ton image de marque, hein. Amazon va produire via des centrales solaires qu'il fait construire. Ouais, ouais. Après, ils peuvent être zéro carbone du jour au lendemain. Faut bien commencer. Non, mais là, la nouvelle, c'est surtout que a priori, ils vont y arriver plus vite que prévu. Tout le monde doit faire sa part, comme le Colibri ou comme le AirPlace. Enfin, le Pixel War, mais on dit plus Pixel War, mais voilà. Tout le monde doit poser son pixel toutes les 5 minutes. Pour éviter la promotion d'articles de merde, il y a le Twitch Achat. Tout à fait, il n'y aura pas le Twitch Achat aujourd'hui. Mais d'habitude, le Twitch Achat, on est là pour vous donner des conseils de non-achat aussi. Tout à fait, tout à fait. Sur ce, c'est la fin des articles, il est 9h18. On va ouvrir un petit camp de fac. Vous pouvez reparler de Twitter. On va être là jusqu'à à peu près 9h40. Boum, ça c'est dit. Vous pouvez me poser des questions. Mais avant ça... puisqu'on est en train de parler d'Amazon, nous avons une information importante à vous dire. Vous pouvez piquer de l'argent à Bezos et le mettre dans notre poche à nous pour qu'on puisse continuer à faire des émissions aussi incroyables que celles que vous venez de regarder. Alors, il y en a deux, trois qui font « Ah ouais, d'accord, c'est ça. » Bon, alors déjà, le truc, il n'est pas démocratique. Le mec, il ne prend pas la liberté d'expression dans son chat. Et en plus, il me demande de l'argent. Mais non. Je vous dis que vous pouvez piquer l'argent que vous donnez à Bezos et le mettre dans notre poche. C'est mieux, ça vous coûtera pas plus cher. Puisque effectivement, vous pouvez très facilement, si vous avez un Amazon Prime,
répercuter une partie de cet Amazon Prime sur Nowtech. Et ça ne vous coûtera pas plus cher. Et vous aidez Nowtech. Et vous piquez un peu d'argent à Bezos. Effet de bord. Donc, pour faire ça, eh ben c'est super simple. Vous devez aller sur un navigateur. Même si vous êtes... Alors, surtout, là, je m'adresse à ceux qui sont sur un iPhone ou un iPad en ce moment. Vous pouvez le faire sur votre iPhone et votre iPad. Mais ne le faites pas dans l'application Twitter. Vous ne pourrez pas le faire dans l'application Twitter. Il faut que vous ouvriez Twitter dans Safari, dans votre navigateur Safari. Et je conseille plus Safari que Chrome pour faire ça spécifiquement. Parce que là, pour le coup, Safari va vraiment fonctionner comme un navigateur d'ordinateur. Vous allez dans Safari. Vous allez sur Twitch. Vous loguez sur votre compte Twitch sur Safari. Et vous allez sur le bouton s'abonner à la chaîne Nowtech. Et là, vous verrez une petite case où c'est, que vous pouvez cocher et c'est utiliser Prime pour s'abonner. Et du coup, vous allez vous abonner gratuitement et donc nous verser une partie de l'argent de Prime pour nous. Donc, vous voyez comme c'est simple. Et d'ailleurs, j'en profite pendant que vous êtes en train de faire la manip parce que je vous surveille. Vous croyez pas, hein, toutes vos webcams sont allumées. Donc, je suis en train de voir hein, celui qui est là. Oh, j'ai la flemme de le faire. Trois clics, il est chiant. Non, non, je vous surveille. Vous le faites. Et en attendant, je remercie MR Cappuccino pour son 2e mois d'abonnement. Merci Caméléon pour ton 21e mois d'abonnement. Merci Altaran pour ton 10e mois d'abonnement. Attendez, j'ai pas fait un refresh. J'ai pas tous les contributeurs, je crois. Alors, si t'as pas de Prime, Lorelai Panay, j'ai une solution pour toi. Soit tu fais un sub, soit tu peux nous aider sur Patreon. Patreon.com/Nowtech. Hein, on est sur Patreon aussi, donc tu peux nous aider. C'est pas une excuse que tu n'aies pas de Prime. Donc, merci Ginei pour ton 14e mois d'abonnement. Merci Fanati X. Pour ton 8e mois d'abonnement, merci Chimbo 421 pour ton 3e mois d'abonnement, merci Dur à cuire pour qui a offert 2 abonnements communautaires, merci beaucoup à toi, merci qui j'ai oublié ? Non, a priori j'ai oublié personne là. À chaque fois que je regarde cette chaîne, ils demandent de l'argent. Bah si on en demande, à ton avis, c'est pourquoi ? Peut-être parce qu'on en a besoin pour survivre et pour continuer à faire des émissions. Donc, et si on ne demande pas, je peux vous le dire, hein, je suis désolé, là aussi, on va parler de la nature humaine. Hein. Si on vous demande pas d'argent, en fait, vous enfilez pas. Donc, désolé. Hein. Allez, mon petit, va chercher le portefeuille de maman. Exactement. Non, mais après, je veux pas avoir un discours trop hard-selling, comme on dit. Bien évidemment, vous nous soutenez si vous pensez que ça vaut le coup, qu'on ait une chaîne bien, que vous vous êtes diverti, que vous êtes informé ce matin, que vous regardez souvent le mug, ou vous regardez nos vidéos sur YouTube, et que vous trouvez ça cool qu'on existe. Nous sommes une relativement petite chaîne. Oui, on a beaucoup de sponsors, mais on n'a pas énormément de vues. Parce qu'on fait des vidéos comme nous, on pense devoir les faire. On fait pas forcément des vidéos qui font énormément de vues. On a notre ligne édito, si vous l'appréciez, et là je vous le dis parce que c'est la vérité, on a besoin de vous pour pouvoir continuer à faire la chaîne comme ça. Après, je suis pas en train de vous dire, on n'est pas Mediapart, hein. Je me repose pas sur vos dons, parce qu'ils sont pas suffisants, je vais être aussi clair que ça. Oui, on fait des sponsors, oui, maintenant on commence à faire des jeux concours, ce qu'on faisait pas avant, on est obligé, en gros... De se convertir au système si on veut pas disparaître. Hein. Mais une chose qui est très importante, et j'arrête là-dessus, c'est que l'argent que vous donnez, que ça soit par vos primes, vos subs ou par Patreon, ne sert qu'à une seule chose chez Nowtech, à créer de l'emploi. Je n'utilise pas cet argent pour moi, pour mon emploi à moi. Je l'utilise pas pour le loyer et je l'utilise pas pour acheter du matériel. Ni le yacht, ni les rares impôts qu'on a à Malte. Non, je plaisante, mais l'argent n'est utilisé que pour payer les salaires et les traites des gens qui travaillent pour Nowtech. Voilà. Donc, sachez que cet argent n'est pas utilisé à autre chose que ça. Sans langue de bois, penses-tu que Nowtech a encore plusieurs années sans problème? C'est compliqué à dire, tu sais, je suis pas... le marché est fragile. Le marché de l'influence, contrairement à ce qu'on peut croire, est un marché hyper précaire, qui peut s'effondrer à tout moment. Ou moindre bad buzz, ou un collapse général du marché de l'influence. Donc c'est un marché fragile, et dans ce marché fragile, nous sommes une société à peine rentable. Donc oui, je vais pas vous mentir, on est super fragile. Ouais. Non, les bitcoins, impossible pour nous en compta pour l'instant. Merci Kerouac Jack, mais pour la comptabilité, parce que tout argent que vous nous donnez, nous on le déclare, on paye des impôts dessus. Donc avec les bitcoins, ça serait extrêmement compliqué. Mais peut-être qu'un jour, on trouvera une solution là-dessus, mais on n'en a pas pour l'instant. Merci beaucoup, Lion de Juillet, pour ton abonnement qui cumule 20 mois d'abonnement. Merci, Dur à cuire, ça, j'ai déjà remercié. C'est marrant, j'ai l'impression que j'ai pas un refresh des contributeurs. Si, j'ai bien eu un refresh. Merci en tout cas à tous les contributeurs, on a besoin de vous. Et on va passer tout de suite au camp de fac. Après, si vous êtes vraiment dos au mur, petit Red Shadow Legend. Alors, Red Shadow Legend, on a fait une sponsor avec eux sur Twitch. On a joué pendant 2 heures avec Guillaume à Red Shadow Legend pour voir si c'était un bon jeu ou pas. Le seul truc, c'est que nous, on prend des sponsors, mais on les prend sur nos conditions. Je n'acceptais pas, parce que ça fait longtemps que Red Shadow Legend nous proposait de nous sponsoriser, mais je voulais pas parler de Red Shadow Legend avant de l'avoir testé avec vous. Pour voir ce qu'il avait vraiment dans le ventre. En gros, et c'est ça que nous amènent les contributeurs, c'est un luxe dont je ne me prive pas, c'est que oui, on prend des sponsors, mais on prend pas n'importe qui, n'importe comment. Et ça, c'est grâce aux contributeurs. Parce que je sais que les salaires que j'ai à verser aux gens qui travaillent pour Nowtech sont pas entièrement dépendants des sponsors, ce qui ne m'oblige pas à prendre n'importe quoi, n'importe quand. Donc ça, c'est hyper important. G-Skill, c'est fiable, merci, parce que pour la carte mère, il y a beaucoup de G-Skill. Je sais pas ce que c'est, G-Skill, désolé, il va falloir que tu m'expliques, Flo. Je sais pas. À mon avis, Labo Prime, ça va pas durer autant que les impôts. Jeff va fermer le robinet un jour ou l'autre. Il l'a déjà à moitié fermé, Jeff. Vos Prime, il faut les renouveler tous les mois manuellement. Si vous renouvelez pas, il nous file pas d'argent. Donc, il a demi ouvert le robinet. Mais en même temps, ça lui apporte beaucoup en image. Parce qu'il passe pour être cool, en fait, puisqu'il aide les streamers. Je sais que c'est du boulot, mais est-ce qu'il va y avoir des extraits podcast? Nous sommes en podcast. Des extraits, ça serait trop de boulot aujourd'hui. Et du boulot, ça veut dire payer quelqu'un pour le faire. G-Skill comme RAM. D'accord, c'est une marque de RAM. Bah, tu vois, on n'a pas testé. Est-ce que vous avez des questions? Nous avons 10 minutes encore ensemble, enfin une douzaine de minutes encore ensemble. Et l'opération avec Motorola, c'était comment? Oh, ça s'est bien passé. On a fait une vidéo sponsor pour eux, donc un publi rédactionnel. Ça s'est plutôt bien passé. D'ailleurs, je peux pas vous en parler. Est-ce que le prix des subs moins chers a eu un impact important chez Nowtech? Ça a eu un impact quand même, ouais. Ça a eu un impact, Babat. Mais je dirais que c'est plus la fin du confinement qui a eu un impact sur Twitch. C'est vrai que la période du confinement était quand même... Les périodes de confinement ou de restrictions, en tout cas de mouvement, de gros télétravail, étaient une période un peu bénie pour les lives sur Twitch. Depuis, ça s'est un tout petit peu tassé. Cela dit, si tu coupes le live d'ici dans une minute, il y en a un qui te file 50 millions d'euros. Je fais pas ça pour l'argent, moi. Et puis, je sais très 50 millions de dollars. Et je sais très bien qu'il n'a pas les 50 millions de dollars. Je n'y crois pas. Et ma liberté d'expression, alors, la mienne.
Pas que les primes initiés sur le fait de prendre des abonnements, je suppose qu'un pourcentage non négligeable prend des abonnements payants après avoir utilisé Prime.
Bah, de toute façon, le business model de Prime, c'est un coup de génie de Bezos. Une fois que tu es dans Prime, et c'est tellement dur de sortir de Prime, le fait qu'ils vous rajoutent plein de choses, genre vous pouvez aider les streamers, vous avez des vidéos, vous avez de la VOD gratuite et tout ça, c'est pour que même les mois où vous ne commandez rien sur Amazon, vous dites ça vaut le coup de prendre Prime. Et que vous n'ayez pas de velléité de départ de Prime, en fait. Un test du studio display est-il prévu ? Non. Comme les produits Apple, on est obligé de les payer nous-mêmes pour pouvoir les tester et que, bien sûr, on pourrait les renvoyer derrière, mais c'est jamais sûr si jamais on casse l'écran. Là, on n'avait pas la trésor pour faire rentrer un Mac Studio et un studio display pour pouvoir les tester. En plus, le test d'un écran n'est pas le truc le plus folichon de la Terre. Donc non, il n'y aura pas de test. C'est le problème avec Nowtech, ils ont jamais su faire de la grosse moula, trop de principes. C'est clair, et je vais te dire, c'est bien aussi qu'on s'agrandisse, parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent dans Nowtech, il n'y a pas plus que moi. Moi, je suis quelqu'un, je suis un vieux con avec beaucoup de principes, parfois un peu borné. On m'a fait changer d'avis sur certaines choses. Il y a des choses, et là, on est devenu rentable grâce à quelqu'un comme Cédric, qui m'a fait bouger sur les lignes. Rappelez-vous, le début de la chaîne, il y avait zéro sponsor. Parce que moi, j'ai toujours tenu le discours, je prendrai des sponsors quand ça me chante et quand je suis d'accord avec ce qu'ils font. Résultat des courses, les 4 premières années de Nowtech, j'avais zéro sponsor parce que je les refusais tous. Mais c'est vrai, hein. Et Cédric est quelqu'un qui m'a fait évoluer sur la notion de sponsor en me disant... Calme-toi, c'est pas si grave, tu vas pas partir en enfer parce que t'as des sponsors. Alors bien évidemment, j'ai des gens qui vont dire « Ah, mais Nowtech, c'était mieux avant, à l'époque où t'avais pas de sponsors. » Ouais, mais on a failli en crever aussi. Voilà. Ça, c'est un truc que les gens oublient beaucoup. Hein. C'était mieux avant, quand vous étiez moins marketing, vous étiez moins commercial. Oui, mais j'étais quasi mort. vous avez des pistes pour diversifier et ou pérenniser vos revenus? On veut continuer à avoir notre tech. Écoute, c'est un travail quotidien. Quoi, tu travailles pas gratuitement pour le plaisir des viewers? Bah, si un jour, mon propriétaire... me propose de payer mon loyer en visibilité et qu'au supermarché, ils acceptent que je parte avec la bouffe sans payer, je travaillerai gratuitement pour le plaisir des viewers. Tu te souviens de Pixter? Oui. Vous savez, après, la phrase que j'aime bien dire, même si je me compare absolument pas, mais vous n'allez pas avoir George Clooney quand votre café est froid, quoi. Nous, les sponsors, bon, on relaie des messages publicitaires, on n'est pas responsable après de ce que deviennent les produits. Hein. Entre guillemets, on a une responsabilité limitée. Après, je suis d'accord quand même, et c'est pour ça que je cite Clooney et Nespresso. Nespresso a aujourd'hui une image de marque qui commence à pâtir, notamment au niveau de l'écologie. Et George Clooney, même s'il n'était que le support publicitaire de Nespresso, tu mélanges quand même les valeurs d'une personne, d'un acteur, avec la marque qu'il représente. Et nous, c'est pareil. C'est pour ça que je dis souvent à nos sponsors, attention, on est plus dans du sponsoring sportif, nous portons les valeurs de votre marque, donc si derrière vous chiez dans la colle et que vous faites de la merde, bah forcément, on va être éclaboussé. Honnêtement, je vois pas tant de critiques que ça sur les nouveaux moves de la chaîne, le public suit. Oui, tout à fait, Oleg. J'avais surestimé certaines choses. Ça chiffre bien les sponsors. Miam, 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 miam. En fait, je vous le dis, et ça, je suis honnête, nous sommes à peine rentables. C'est-à-dire que les sponsors, ça chiffre, mais les dépenses, ça chiffre aussi. Donc aujourd'hui, et il faut pas qu'on reste à l'équilibre, hein, on n'est pas une assoc. Donc il y a un jour, il va falloir qu'on fasse du profit pour pouvoir investir, s'agrandir. On est en train de s'agrandir, mais on n'a pas beaucoup d'argent pour le faire. J'aimerais, moi, je serais rassuré le jour où on fera suffisamment de profit pour pouvoir embaucher d'autres personnes, lancer des nouveaux projets, s'agrandir. Parce que pour moi, c'est ça une entreprise. Est-ce que Sponsor Block a un impact sur vos sponsors? Oui. Oui, c'est évident. De toute façon, les chaînes tech, on est les plus impactés par les adblockers et les Sponsor Block. C'est évident parce qu'on a un public très technophile qui installe beaucoup les adblock et les Sponsor Block. Donc forcément, oui, ça rend notre business beaucoup plus compliqué. On a déjà des sponsors qui nous disent « Vous êtes bien gentils, mais une chaîne tech, on va pas mettre un placement dedans parce qu'on sait que une partie assez conséquente de votre population va bloquer la pub. Donc nous, on n'a aucun intérêt à vous payer. La pub, ils vont pas la voir. » C'est quoi un sponsor block? Après avoir dit ça, DataWatt, je vais certainement pas t'expliquer ce que c'est qu'un sponsor block. T'as qu'à chercher toi-même. Mais plus juste parce que c'est un peu mon credo aussi, pour moi, il y a plus grave dans les sponsor blocks que notre problème à nous. Si les sponsor blocks prolifèrent, le sponsor va être de plus en plus caché dans le contenu des influenceurs. Et ça, c'est vous qui allez tous en pâtir. C'est-à-dire qu'on va retomber dans les problèmes de pub cachée qui sont déjà là, hein, mais qui vont devenir encore plus graves. Un public très hétéroclite plutôt, à la fois capable d'installer des outils anti-sponso, mais dans le même temps, faut prendre par la main pour expliquer un subprime. Il y a de tout. Je suis assez d'accord, Oleg. Merci, Antovi, pour ton prime et 14e mois d'abonnement. Bah, merci, c'est le bon move, hein, ça, FX in the mix, mais vous êtes très rare. Toi, tu bloques les pubs, mais en contrepartie, tu contribues sur Patreon. Aucun problème avec ça. J'ai envie de dire, je vous donne carte blanche pour bloquer ce que vous voulez si vous êtes contributeur. Les gens qui contribuent pas et qui me font la morale sur les bienfaits des adblockers et la corruption des contributeurs qui ne pensent qu'à l'argent, bah, lâche-moi un sub et après tu peux venir me dire ça dans la gueule. Ouais, c'est clair. Ça se saurait si nous étions capables collectivement de nous priver d'aujourd'hui pour préserver le demain, c'est clair. Ah, c'est clair que les sponsors cachés, et j'ai dit que je ne citerai pas de nom, mais il y a tout un tas de vidéos que je vois sortir en ce moment où les sponsors sont maintenant cachés. Et ça, c'est dégueulasse, et ça, c'est très dangereux. Ah, il voulait dire qu'il contribue au Patreon d'Adblock. C'est illégal. Si tu veux qu'on parle du nombre de choses illégales qui sont faites dans le monde? Bien sûr, c'est illégal. Mais tant qu'il n'y a personne qui dénonce... Chez des gros créateurs, chez des petits... Je vois une tendance revenir du sponsor caché, en fait. Non, c'est pas dangereux pour la réputation, c'est dangereux pour vos cerveaux. Un sponsor caché, c'est de la manipulation. C'est de la pub manipulatoire, le sponsor caché. Donc, c'est très mauvais sur tout un tas de niveaux, en fait. Alors, attention, parce que parfois, je vous vois sauter à la gorge de certains créateurs en disant « Ouais, t'as cité trois marques dans ta vidéo, pub cachée, vendue. » Je vous rappelle la définition d'une publicité. c'est que le mec est payé pour parler d'une marque. Moi, je vous cite plein de marques. Je porte des vêtements avec des marques dessus, vous voyez. Hein, je ne suis pas payé. Donc, c'est pas de la pub cachée. Vous confondez tout, en fait. Tout à fait. Pour une vidéo où l'ensemble du contenu va être de la pub, mais sans jamais vraiment dire la marque, enfin, il y a une ambivalence, etc. C'est une forme de pub cachée. Justement, comment tu détectes le sponsor caché? Comment tu vois une tendance à son retour? Parce que j'ai travaillé dans la publicité.